se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à lundi, 68% de remise immédiate sur la deuxième boîte de capsules de lessive Homo 3 en 1.
À 22 centimes la lessive, je veux bien faire celle du voisin.
Eh ben comme ça, tout le monde est content. Auchan, avec plaisir. 11,87€ les deux boîtes de lessive Homo Monoï au lieu de 17,98€. 8,99€ la boîte vendue seule, soit 12,71€ le kilo. Existant d'autres variétés valables sur le moins cher dans vos magasins et drive Auchan participants et en livraison à domicile. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
Et c'est Jacques-Charles Fombonne, le patron de la SPA, qui est avec nous. Bonjour Jacques-Charles.
Bonjour.
Bonjour, merci d'être en direct avec nous. C'est vrai que ce week-end du 15 août, c'est un week-end terrible pour les abandons d'animaux.
Oh, c'est tout le mois de juillet, tout le mois d'août qui sont en fait assez terribles pour les abandons d'animaux. On est même plutôt maintenant sur la fin des abandons, puisque c'est la fin des vacances. Le plus gros a été entre le 25 juillet et le 5 août. Nous sommes actuellement à un chiffre qui est malheureusement un chiffre record, qui est au chiffre d'avant-hier de 8607 animaux, très exactement, pour une capacité nominale de nos 65 refuges qui est d'environ 6500 normalement.
Mais et alors, quelles sont les raisons des abandons et comment ça se passe? On vous apporte les animaux ou on vous alerte et c'est vous qui allez, je mets les guillemets, les ramasser? Comment ça se passe?
Alors, je dirais que les deux voies sont équivalentes à 50%. Il y a des gens qui viennent nous abandonner des animaux, alors avec un prétexte plus ou moins fallacieux, mais on ne demande jamais la raison de l'abandon. Hein. On ne veut surtout pas faire la morale aux gens. Et puis, il y a des animaux qui sont divagants, c'est-à-dire qui ont été physiquement abandonnés sur la voie publique. Et à ce moment-là, ça relève de la mairie, parce que le Code des collectivités territoriales fait obligation aux maires de capturer les animaux errants s'ils ne sont pas récupérés par leur propriétaire. À ce moment-là, ou ils les euthanasient s'il n'y a pas d'association de protection des animaux, et sinon ils les donnent, et à ce moment-là, évidemment, on les recueille.
Et il y a de la maltraitance, souvent ou pas ?
Pas forcément, non. L'abandon des vacances, c'est plutôt l'imprévision. C'est-à-dire qu'on prend un animal à Noël pour faire plaisir au petit dernier ou pour se faire plaisir, et puis on ne réfléchit pas, et on se rend compte au mois de juin, au mois de juillet, que finalement les vacances que l'on a l'habitude de passer dans la famille, dans un camping ou dans un hôtel, ne va pas accepter les animaux. Et à ce moment-là, vous comprenez bien qu'entre sacrifier l'animal qu'on a acheté comme un objet et qu'on n'a pas forcément depuis longtemps, et sacrifier ses vacances, malheureusement, au détriment de l'animal, le choix est vite fait.
Mais Jacques-Charles, pourquoi est-ce que la France a le record d'Europe d'abandon des animaux?
Alors en fait, on ne le sait pas exactement avec précision. On parle souvent, par exemple, de 100 000 animaux abandonnés par an. C'est un chiffre qui tourne, en fait, mais que personne ne peut vérifier. Par exemple, la seule SPA, nous recueillons, l'an dernier, nous avons recueilli 46 000 animaux. C'est la raison pour laquelle nous militons pour une véritable responsabilité de l'État dans le domaine de la protection animale. On a besoin d'un défenseur des droits des animaux, de quelqu'un qui soit capable de recueillir les statistiques, les raisons des abandons, et de faire en fait le tour de la question avec toutes les parties.
Barbara Lefebvre, Bruno Poncet, Stéphane Manigault. Ouais, question, Barbara.
Je souscris à ce que dit Monsieur Fombonne, mais la question, c'est que on est aujourd'hui dans une situation juridique impossible. C'est-à-dire que nous sommes dans un système qui dit que l'animal est un bien sensible. Parce que c'est ça l'état du droit civil en France. C'est-à-dire qu'on dit que l'animal est un bien, mais qu'en même temps, c'est un être sensible. Je ne vois pas bien, par exemple, une montre, vous voyez, elle n'est pas sensible. C'est un bien, c'est un objet. L'animal et les animaux sont de l'ordre du vivant. Ils ressentent la souffrance, ils ressentent la douleur, ils ont des émotions, ils ont une intelligence, ils ont des capacités cognitives qui fait d'eux des êtres vivants à part entière. Et d'ailleurs, je rejoins en ça évidemment le grand penseur Claude Lévi-Strauss qui disait qu'il ne faut pas des droits de l'homme, une déclaration des droits de l'homme, mais une déclaration du droit des vivants. Donc, à partir du moment où on est dans cette situation où l'animal n'est ni un objet, ni un sujet, on ne pourra pas avancer. Donc c'est là que je vous demande, vous en tant que président de la SPA et de toutes les autres associations de protection animale, vous avez raison, il faudrait un défenseur de la cause animale, il faudrait que tout ça soit articulé à l'État, mais est-ce qu'on peut le faire tant qu'on n'a pas véritablement travaillé d'un point de vue juridique et législatif sur la question de la personnalité juridique des animaux en fonction de leur espèce, parce qu'évidemment un invertébré et un mammifère, c'est pas la même personnalité juridique, un animal sauvage, un animal domestique, un animal de rente, c'est pas la même chose non plus, mais tant qu'on ne va pas aller s'attaquer à la question du droit des animaux et en particulier de l'établissement d'une personnalité juridique spécifique et de sortir enfin de la summa divisio, c'est-à-dire dans le droit, on est soit un objet, soit un sujet et il n'y a que l'humain qui a le droit d'être un sujet, ça ne pourra pas fonctionner.
Alors c'est une question juridique qui est effectivement très complexe, hein. Vous l'avez évoqué dans les grandes lignes, c'est effectivement la summa divisio du droit civil. L'animal est-il l'objet ou le sujet de droit ? Je pense qu'on ne peut pas sortir de la qualification de l'animal comme étant un objet. Alors c'est vrai que le rapport cognitif, le rapport entre l'homme et l'animal, vous l'avez dit, est extrêmement différent. Il est tout à fait protéiforme entre l'animal sauvage, entre le chien, entre le chat, l'animal domestique, et puis le bœuf, et puis l'agneau, et puis le petit veau que vous allez consommer à midi. Pourtant, ça appartient au règne animal. Ce qui fait que le législateur a eu cette idée, mais qui n'est en fait qu'une posture juridique, c'est-à-dire que ça ne change pas fondamentalement la nature de bien de l'animal, mais je pense qu'on ne peut pas le changer, mais simplement le fait de préciser que cet animal est un être sensible en fait un bien, parce que le deuxième alinéa de l'article qui précise que l'animal est doté de sensibilité, précise également que son régime juridique est celui des biens. Il faut simplement, et je pense que c'est l'idée du législateur de l'époque, excusez-moi c'est un peu compliqué, mais je pense que l'idée du législateur de l'époque, c'est de préciser que dans cette catégorie de biens, effectivement ça n'est ni une montre ni une voiture, mais comme une voiture on peut le céder. En revanche, il a besoin de la protection, c'est-à-dire qu'il n'a pas seulement qu'une capacité de jouissance, pour reprendre un terme juridique, mais qu'il bénéficie également d'une protection, c'est-à-dire la protection de la maltraitance, la protection contre l'abandon. Et vous savez comme moi que les peines ont été extrêmement durcies par le code pénal en novembre dernier.
Justement, Jacques Charles, avant d'écouter d'autres questions, vous dites là, on a une période difficile où effectivement tous nos refuges aujourd'hui affichent complet quasiment avec les animaux, mais c'est pas assez paradoxal aussi d'inciter à venir adopter, dans la mesure où derrière, vous savez, on est dans une espèce de cercle vicieux, quoi, en fait.
Non, parce qu'en fait, nous luttons depuis plusieurs années contre l'animal, j'allais dire l'animal objet, mais vous comprenez toute la difficulté juridique de la chose, mais au moins contre l'animal marchandise, contre l'animal produit de marketing. C'est-à-dire que si vous achetez un animal dans une animalerie et on va obtenir la fermeture le 1er janvier 2024, vend un produit. Lorsque vous venez dans une association, pour parler de l'SPA que je connais, mais je pense que la plupart des associations sérieuses font la même chose, on vous donne un animal, mais avant, on va vous interroger. C'est-à-dire qu'on va chercher ce match, cette symbiose entre la future famille et l'animal. On vous interroge sur votre mode de vie, sur vos revenus, c'est la question taboue, mais il faut toujours la poser, parce que c'est aussi et certainement une des causes d'abandon, sur le nombre de personnes de la famille. On demande que vous veniez avec l'ensemble des personnes. Et ensuite, on fait une présentation, mais ça va durer une heure et demie. Et pendant ce temps-là, les gens qui travaillent dans nos refuges vont observer la réaction de l'animal et la réaction de la famille. Si on considère que ça ne marche pas, qu'il n'y a pas d'entente, que les de vie matérielle ne fonctionne pas, on va refuser de vous donner l'animal. D'accord. On faisait du droit tout à l'heure, le refus de vente, vous savez que c'est une infraction pénale, on n'est pas dans une logique de vente. Donc on s'autorise le refus de cette cession, de ce don de l'animal. Et ça marche généralement très bien parce qu'on a moins de 4% de retour de nos animaux.
Tant mieux. Stéphane Manigold.
Je pense que la société maintenant, elle a une meilleure conscience du bien-être animal. Il faut enfoncer le clou, c'est maintenant qu'il faut y aller. Et je pense que ça commence aussi par les écoles, la sensibilisation auprès des enfants, puisque souvent, lorsque un animal arrive dans un foyer, c'est aussi une volonté des enfants de dire, bah tiens, j'aimerais bien un chien.
Et après,
ils s'en occupent plus. Ils s'en occupent pendant 2 semaines, c'est les parents qui s'en occupent, ça devient vite compliqué, les vacances arrivent, on ne sait pas quoi en faire, et la SPA est là. Et donc, il y a une vraie sensibilisation, je pense, à mettre en place.
Absolument.
Je pense qu'il faut un permis, moi, pour pouvoir avoir certains animaux, et puis renforcer avec une taxe ou une amende, pourquoi pas 1000 euros en cas d'abandon ou de mauvais traitement, parce que
le problème aujourd'hui, c'est le droit,
ce que la SPA ne dit peut-être pas, c'est que ils sont en surcapacité et que cette surcapacité entraîne l'euthanasie des animaux.
Il y a plusieurs questions en fait dans votre propos. Je suis très content de vous entendre parler d'éducation, parce que c'est un combat que je mène comme président depuis 4 ans. Nous avons obtenu l'an dernier de monsieur Blanquer une convention pour aller dans les écoles. On va toucher des petits-enfants, 3 ans, 6 ans, 8 ans. Je suis absolument convaincu que ce que l'on apprend dans ces jeunes années s'inscrit de façon définitive dans la façon dont on va vivre ensuite sa vie d'adulte. Les peines pénales, c'est un signal politique du législateur qui dit attention, on n'abandonne pas. Pour rebondir sur ce que vous disiez, l'abandon, c'est pas une amende, c'est un délit. Hein, c'est maintenant l'article 521-1 du code pénal. Si l'animal, si la maltraitance qu'est l'abandon, parce que c'est une condamnation à mort.
C'est 3 ans et 45 000 euros d'amende.
La mort de l'animal, c'est 5 ans et 75 000 euros d'amende. C'est-à-dire que c'est une peine considérable. Évidemment, oui. Elles ne sont pas toutes, elles ne sont jamais appliquées parce que c'est l'appréciation souveraine des
gens.
Elles ne sont jamais appliquées au maximum.
Pourquoi mais c'est vous ne parlez pas de l'euthanasie des animaux parce important. Que vous êtes en surcapacité?
Vous euthanasiez effectivement de manière. Parce que vous y êtes contraint?
Alors, jamais. L'article premier de nos statuts, vous irez les voir sur Internet si vous le voulez. Nous nous refusons à faire des euthanasies autrement que des euthanasies médicales. Alors qu'est-ce qu'on fait? On pousse les murs. On a des équipes de transfert, c'est-à-dire que si le refuge d'Aix-en-Provence est plein et qu'on a de la place à Quimper, on va déplacer les animaux. En cette période, vous comprenez qu'on est plein absolument partout. On a donc recours à des familles relais. S'il y a des gens qui nous écoutent et qui veulent nous aider, ils décrochent leur téléphone, ils vont sur notre site, la-spa.fr, et ils nous disent, voilà, je suis en capacité de vous prendre un, deux chiens, trois chats, pendant 15 jours. On a à peu près 1500 familles relais. Je les salue sur votre antenne, parce que c'est eux qui nous permettent de pousser les murs pendant cette période qui est évidemment tout le temps difficile.
Bruno Poncet, une question ou une réflexion à propos de ces animaux domestiques?
Moi, je trouve que c'est affligeant d'arriver à en abandonner autant. Et en plus, je pense que tout l'outillage a été fait entre la pédagogie, entre des clips pour sensibiliser, entre même la législation, et ça ne change pas. Ça change très peu. Et effectivement, après le Covid, tout le monde a voulu un chat ou un chien parce qu'il s'emmerdait chez lui. Et puis d'un seul coup, maintenant, ça y est, ça revient, donc on n'en a plus besoin. Et on sent quand même chez Monsieur Fombonne une espèce de lassitude quand même à pas réussir à un moment donné à être aidé peut-être un peu plus par l'État ou en tout cas par les pouvoirs publics.
Jacques Charles, c'est vrai, vous voudriez que l'État en fasse plus?
En Normandie, a fait
beaucoup.
Non,
alors je suis un éternel optimiste. La SPA, elle a été créée en 1845. Je veux dire que si la protection animale avait été réglée en quelques mois, en quelques années, on n'aurait plus besoin de nous, et heureusement. Non, je pense que c'est un domaine. Si on veut s'arrêter quelques instants sur l'organisation de la protection animale, c'est un domaine dans lequel ce sont les associations qui mènent la protection animale, qui font le lobbying et que l'on voit. Dans une république, c'est pas normal. C'est à l'État d'organiser cela et ensuite, éventuellement, avec l'aide des associations.
D'autant...
Parce que nous n'avons que la légitimité de nos adhérents. Alors, pour un président, c'est formidable, mais à l'échelle du fonctionnement des institutions, ça n'a pas de légitimité. Il faut que nous ayons plus qu'un ministre, plus qu'un secrétaire d'État, parce que c'est un politique et qui partira avec le gouvernement. C'est l'idée que Robert Badinter nous a suggéré. J'ai eu le grand privilège de le rencontrer il y a 18 mois. Il milite depuis des années pour cette création du poste de défenseur du droit des animaux, des droits des animaux, pardon, pour reprendre ce que l'on disait tout à l'heure, une autorité indépendante nommée par le président de la République avec un mandat long, non renouvelable, il ne sera pas obligé de courber les chines devant les politiques, et qui soit capable de réunir les associations, de réunir les éleveurs, de réunir toutes les personnes qui aiment les animaux ou qui tirent leur revenu des animaux, parce qu'il n'y a pas de honte à le dire, et qui soit capable de dire, voilà, les causes de l'abandon, c'est ça. Le nombre d'animaux abandonnés, c'est tant. Il y a de plus en plus d'animaux domestiques. Nous avons cette année des chiffres qui sont, je dirais, aussi mauvais que l'an dernier, qui était une mauvaise année, mais qui n'ont pas explosé, contrairement à ce que l'on croyait à cause du Covid. Donc, quelles sont les causes? Quelles sont les régions dans lesquelles on abandonne les animaux? Quels sont les milieux socio-professionnels? Quel est l'âge des animaux que l'on abandonne? Quel est le... Nous avons, par exemple, en ce moment et depuis plusieurs années, beaucoup d'American Staff et beaucoup de Malinois. C'est le chien à la mode. Les gens les prennent, c'est des chiens qui ont besoin d'un maître qui est un petit peu d'expérience du chien. Parce que le chien est un animal de meute, parce qu'un Malinois, on ne le fait pas monter sur le canapé, parce qu'il y a l'homme, il y a le chien. Moi, j'ai pris dans un de mes refuges une grosse chienne qui est croisée, berger allemand. J'appelle ça un berger international, hein, c'est-à-dire qu'il y a à peu près toutes les races. Mais évidemment, je l'adore, mais c'est un chien. C'est-à-dire que si vous avez un tout petit chien à la maison, s'il n'est pas content, ça va mal se passer, il va aboyer, il va peut-être vous mordre. Si c'est un chien fort physiquement, eh ben les conséquences vont être différentes. Donc, vous parliez tout à l'heure, je n'ai pas répondu à cette question, du permis. J'ai toujours dit que le permis n'était pas forcément une bonne idée, parce que je pense que c'est une usine à gaz. Qui le donne? Qui le délivre? Qui fait passer l'examen? Qui le retire?
Ouais.
Je donne un coup de pied à mon chien, je perds un point. Je lui donne deux coups de pied, je perds trois points. En revanche, l'initiative qu'a eu le gouvernement avec le décret du 18 juillet dernier, donc qui est la suite de l'application, qui est l'application, pardon, de la loi du 29 novembre dernier, c'est un certificat de responsabilité, de connaissance et d'engagement. Ça veut dire que je m'engage, symboliquement, je signe, c'est-à-dire que je ne veux plus dire que l'on ne m'a pas expliqué, et puis je ne me contente pas de cocher une case comme on le fait sur Google, vous savez, quand vous avez 400 pages traduites auxquelles vous ne comprenez rien, que vous n'avez pas envie de lire. Là, c'est quelque chose où on va expliquer aux personnes quel est le besoin physiologique. C'est ce que l'on fait depuis des années dans nos refuges, et ça, c'est pas mal. Parce que vous comprenez bien que les gens qui viennent adopter des animaux sont des gens de bonne volonté, c'est des gens qui aiment les animaux, ils viennent venir dans un refuge de l'SPA ou d'une autre association. Émotionnellement, c'est quand même toujours une épreuve, parce que vous avez des animaux qui sont abandonnés, qui ont été... l'animal abandonné, c'est un animal trahi, c'est-à-dire qu'il ne comprend pas ce qui lui arrive.
Mais... Merci Jacques-Charles, pardon, je vais être obligé de... Merci de ces explications précises.
Oui, vous avez remarqué que j'étais bavard.
Oui, mais c'est précis, on comprend bien l'enjeu. Merci Jacques-Charles Fombonne, le patron de la SPA, d'avoir été avec nous.